Les émissions des quartiers.
Pour un outil dédié aux habitants.
On m'a formé comme journaliste.
La radio part à votre rencontre.
À Évreux, il se passe des choses qui sont positives. Et juste, c'est juste pour en parler. Une radio, je pense que ça doit servir à ça.
Un espace d'expression complètement libre où chacun peut intervenir.
C'est aussi des rencontres, des échanges avec les jeunes, les moins jeunes.
Il faut parler ensemble, quoi. Faut y aller, faut dire toutes ces choses. C'est peut-être un peu ridicule, mais c'est ce qui fait la vie ensemble.
Les émissions des quartiers sur Principe Actif.
Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans l'émission des quartiers. Nous sommes les jeunes du collège Henri Dunant à Netreville. Aujourd'hui, nous allons vous parler de sport. Pour cela, Morgane et Stevie recevront Jonathan Profissé pour nous parler de boxe. Clément et Morgane, numéro 2, recevront Florian Marseille pour parler de vélo et ensuite de BMX. Et Tony et Anthony, moi-même, recevront Grégory Badol de l'Évreux Football Club 27. Évidemment, pour parler de football.
J'ai l'intention de tenir l'entête 24 heures sur 24 jusqu'à ma mort. Et puis même encore après, s'il le faut.
Mais tu crois pas que ça pourrait peut-être finir par être légèrement monotone comme expérience pour l'auditeur ?
Principe Actif, 102.4 FM.
Tout de suite, nous retrouvons Morgane et Stevie en compagnie de Jonathan Profissé pour nous parler de boxe.
Merci Anthony. Nous sommes maintenant avec Jonathan Profissé, boxeur originaire d'Évreux. Nous allons maintenant échanger avec lui. Quelle envie vous a poussé à devenir boxeur?
Salut tout le monde déjà. Quelle envie, mon grand frère en fait en faisait. Donc un soir il m'a amené à l'entraînement et ça m'a plu tout de suite. Donc voilà, je suis resté à la salle et puis maintenant ça fait quelques années que je pratique.
À quel âge avez-vous commencé à pratiquer la boxe?
J'ai commencé à 15 ans.
Combien d'heures d'entraînement avez-vous dans la semaine?
La semaine, en fait, on fait 3 entraînements la semaine, 3 entraînements de 2-3 heures à la salle. Et ensuite, je vais à la musculation, footing, puis le week-end, un petit footing. Quoi.
Donc la boxe, c'est un sport physique?
Ouais, c'est un sport super, super physique, complet, qui demande beaucoup d'investissement personnel. Il faut un hygiène de vie irréprochable, surtout quand on s'approche des combats. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas en vivre. Hein. Quand on est loin des combats, on peut s'octroyer quelques petits excès, mais il faut que ce soit raisonnable. Quoi.
Comment s'appelle votre entraîneur?
Laurent Roussel.
Quelles sont les qualités de la boxe?
Les qualités de la boxe?
Ouais.
Déjà, les qualités de la boxe, je pense que ça commence par le travail. Donc si tu travailles pas, t'as beau avoir des qualités, en boxe tu feras jamais rien. Donc déjà, les premières qualités, c'est le courage. Le courage et puis savoir se priver. Donc tous les sacrifices d'avant-match. Donc bien évidemment, pas fumer, pas boire, mais se coucher tôt et s'entraîner dur surtout.
Combien de matchs avez-vous gagné?
Je sais pas. En amateur, j'ai 25 combats. J'ai dû en gagner 17, 18. Et en pro, j'en ai 25. Et j'en ai gagné 15.
Donc vous êtes un bon boxeur?
Ça va. Ouais, ça va. Je me défends.
De quoi est constitué l'équipement d'un boxeur?
L'équipement d'un boxeur, c'est tout simple. Hein. Un protège-dents, une paire de gants, des bandes pour mettre en dessous les gants, une corde à sauter, un short, une coquille pour les combats. Et puis en professionnel, il n'y a pas besoin de t-shirt, donc... Ça, c'est déjà un souci de moi. Puis du gel douche pour après l'entraînement.
Quel est votre palmarès?
Quel est mon palmarès? En fait, j'ai été champion WBC méditerranéen. Donc en août... En juillet 2012. Après, on m'a appelé pour remplacer le champion de France qui s'était cassé la main au championnat d'Europe. Je devais pas du tout être sollicité pour ce championnat-là. Et il s'avère que le champion de France s'est cassé la main la semaine d'avant le combat. Donc ils m'ont appelé une semaine avant. avant le championnat d'Europe. Moi, je rentrais de vacances, j'étais frais comme un gardon, je me suis entraîné bien comme il fallait en vacances. Et j'ai accepté, et voilà, ça a payé. Je suis arrivé au combat, et j'ai gagné par KO au premier round. Donc ça s'est super bien passé, et voilà.
C'est quoi pour toi le combat le plus dur que tu as eu à faire ?
Le combat le
souvenir le plus difficile.
Le souvenir le plus difficile, je parlais en termes de puissance et de je parle pour le cerveau, pour tout ce qui est le combat que j'avais fait à Tahiti. Ça a été hyper violent. Le mec il a commencé, il m'a touché au premier round, il m'a mis deux bonnes gauches, ma tête à l'arculé. Moi j'avais l'impression que c'était des marteaux qu'il avait dans les mains. Et donc il a essayé de me mettre KO. Moi j'ai bougé, les mains hautes et tout, et il m'a enchaîné un peu dans les cordes. Donc moi quand je suis reparti au combat, j'en voyais deux, hein. Honnêtement, je voyais deux mecs, hein. J'étais carrément sonné debout, mais lui il avait tellement donné, il croyait me descendre et je suis pas descendu. Donc après j'ai commencé à revenir petit à petit, j'ai commencé à reprendre mes esprits, et c'est lui qui a fini par tomber KO, quoi. Enfin, je suis descendu au corps, il en a pris une fois, je suis remonté en haut, blabla, puis là c'était une pluie de coups, quoi. Et puis comme là il m'avait mis dans une colère noire, parce que quand on prend des coups ça, et puis qu'on a encore de la ressource physique, je veux dire ça décuple les forces. D'un côté ça décuple les forces. Après d'un point de vue physique, mon championnat de France, ouais, ça a été dur physiquement, pas de point de vue des coups parce que le mec il frappait pas. Mais au point de vue physique, ça a été dur. Ouais. À partir du 8e round, je me suis dit, c'est long, quoi. Ça a commencé à être long à partir du 8e round. Ouais.
Et du coup, le meilleur souvenir en combat, la meilleure victoire, celle qui reste gravée pour l'histoire là, pour le moment.
Alors, disons qu'il y en a deux. Il y a surtout le premier KO que j'ai mis, c'est à Tahiti. Donc là, ça a été un souvenir extraordinaire pour moi, mon entraîneur, parce qu'on a vécu des choses extraordinaires. Et après, c'est en Allemagne, bien sûr, pour la ceinture WBO. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il tombe au premier round. Je me suis dit, un combat de ce niveau-là, ça va être dur. Surtout, c'est un combat prévu en 12 rounds. Le mec, il avait 28 combats, 27 victoires. Je me dis, bon, j'y vais, quoi. J'avais 27 ans à l'époque. Je me suis dit, à 27 ans, une opportunité comme ça, on y va, quoi. On se pose même pas la question. Donc je me suis dit, en y allant, même si on se pose pas de questions, on s'en pose quand même, finalement. Et en fait, quand je l'ai touché au premier round, j'ai vu qu'il vacillait. Oh, j'ai dit, c'est bon. La porte est ouverte. Ah, la porte est ouverte. Et là, je l'ai pas lâché, quoi. Je l'ai pas lâché. Donc il est tombé une première fois, il s'est relevé. Et après, je suis revenu dessus. J'ai essayé de provoquer son crochet gauche. Il met son crochet gauche. Je fais un retrait du corps, je reviens à droite, boum. Et là, c'était un pantin, quoi. Désarticulé, l'arbitre, il a arrêté le combat. Et puis là, j'ai explosé en joie, quoi.
Et moi, j'avais une dernière question sur l'équipement. Alors, on voit en amateur ou en pro, il y a des casques, il n'y a pas des casques. C'est quoi un peu cette règle par rapport aux casques dans le monde de la boxe ?
Depuis cette année, en fait, les règles ont un petit peu changé. Avant, l'amateurisme, quand on faisait un combat, il fallait un casque. Et aujourd'hui, on l'a enlevé. Et ce qui diffère aussi, c'est les bandages. Donc en amateur, c'est les bandages que t'achètes à Decathlon. Donc on enroule ses mains, tout ça. Et en professionnel, c'est de la gaze. Donc en fait, c'est de la gaze et des sparadraques, tant pis. Et ça finit par être dur, quoi. Et voilà, c'est la différence. C'était torse nu en professionnel. Voilà.
Une question de Anthony.
Vous vous entraînez où en fait ?
Je m'entraîne à la salle Omnisport d'Evreux, là où s'entraînent les basketteurs et tout. En face de quoi ?
Au Bel et Bas, ouais.
Ah voilà, au Bel et Bas.
La conclusion, messieurs ?
Merci de votre attention. C'était Morgan et Stevie du Collège Réunion qui ont interviewé Jonathan Profiché sur l'antenne de Principe Actif.
Merci à vous, les gars, ce fut un plaisir.
Bah, merci à vous d'être venus. Hein.
Wicked, jungle is massive. Wicked. Jungle is massive. Wicked. Jungle is massive. Wicked. Original. Well, big up. All the original jungle is massive. The original dancehall jungle is there. General Levy alongside the MB. The world is in trouble. I will tell a murderer. It goes. I am the
Moi-même, en compagnie de Grégory Badoche pour vous parler de football.
C'est trop bien la radio!
Principe Actif, 102.4 FM.
Nos chers auditeurs, nous sommes avec Grégory Badoche, un membre du club de l'FC 27, club de foot, qui signifie Evreux Football Club.
Evreux Football Club, très bien.
Quel est votre rôle au sein du club?
Bonjour à tous. Donc moi, je suis Grégory Badoche. Je suis éducateur donc de foot hein, au club à l'EFC 27 et en même temps je m'occupe de tous les projets sociaux sportifs qui met en relation les écoles avec les jeunes et puis le foot et les parents. Voilà.
Comment êtes-vous rentré dans le club ?
Alors souvent quand on travaille dans le sport, il y a des études, hein, il y a des études à faire, mais il y a aussi pas mal de chance. En fait, je suis rentré au club suite aux émeutes qui ont eu lieu en 2005 à Évreux. Et donc l'objectif était de se servir aussi du foot pour pour aider les jeunes du quartier, donc de la Madeleine entre autres à l'origine, et ensuite bah, développer à partir du foot, leur faire apprendre les choses, les valeurs de la société et tout ce qui va avec pour justement arriver à faire de vrais hommes et qui est aussi moins de problèmes dans les quartiers.
Mais faites-vous du foot aussi dans votre club ?
Alors moi je faisais j'ai fait du foot. J'ai fait du foot, j'en fais plus parce que maintenant quand on joue au foot, quand on est on travaille dans un club de foot et puis qu'on entraîne, parce que je suis aussi entraîneur et surtout entraîneur, il n'y a plus beaucoup de temps, donc je ne peux plus jouer, je ne joue plus, mais j'ai beaucoup joué, ouais, depuis que j'ai 15 ans.
Combien y a-t-il de salariés ?
Pardon ?
Combien y a-t-il de salariés ?
Alors dans le club, on est 5 ou 6 salariés. Pour que ce soit plus simple, on va en parler. Donc on a un webmaster donc qui s'occupe du site internet du club. Et ensuite on a un secrétaire. On a donc deux éducateurs, donc deux entraîneurs, dont moi-même. Et on a un directeur administratif et financier, donc qui gère tous les salariés et puis la partie financière et donc administrative. Voilà.
Et combien y a-t-il de licenciés dans votre club, s'il vous plaît ?
Alors le club d'Évreux, c'est un des plus gros clubs de Normandie. On atteint les 600 licenciés. On tourne autour de 600, 650, 550, ça dépend des années. Là, on est proche de 600. Donc voilà, aussi bien des garçons que des filles. Et puis donc des gens qui ont de 6 ans jusqu'à, pour les plus anciens et pour les dirigeants, jusqu'à peut-être 70 ans.
Et combien de bénévoles ?
Alors les bénévoles, c'est ce qui permet de faire marcher dans une association, ce qui permet de faire marcher l'association. Donc des bénévoles, doit y en avoir une bonne quarantaine, hein, une bonne quarantaine de bénévoles. Et peut-être que j'en oublie, mais c'est eux qui font marcher le club. Donc c'est eux qui sont les plus importants dans cette association.
Combien de catégories dans ce club ?
Alors dans des catégories, il y a des catégories. Les catégories, ça commence à U7. Pour les énumérer et pour les compter, il doit y avoir une bonne dizaine de catégories. Donc des plus petits qui ont 6 à 7 ans, jusqu'aux plus vieux, entre guillemets, les plus anciens qui jouent encore, c'est les vétérans. Ce qui fait à peu près 40 équipes. Donc à peu près 10 catégories et à peu près 40 équipes en tout.
Est-ce que c'est comme les Ravensburger ? Est-ce qu'on peut jouer de 3 à 99 ans ?
Ah, tu peux imaginer que à 99 ans, jouer au foot, ça va être difficile, mais à partir de 3 ans, c'est pas possible, c'est un peu trop jeune. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est vous savez très bien, c'est le ballon, il faut arriver à le maîtriser. Déjà que pour les petites, 6-7 ans, c'est déjà difficile à faire. Mais pour les jeunes, à partir de 6 ans, c'est possible. Et puis après, il faut être capable de pouvoir encore courir. Hein. Les plus anciens, ils ont 45 ans peut-être. Mais on peut pas aller jusqu'à 99 ans, ça va être difficile. En tout cas pour jouer.
Combien de joueurs dans l'effectif ?
Alors, j'imagine que tu parles de l'équipe première. C'est
ouais.
Ça ?
Oui. Ouais.
Alors,
l'équipe première.
Combien il y a de joueurs dans l'équipe première ?
Alors l'équipe première, bon, c'est une des équipes du club, donc je parlerai à la place du coach, parce que je ne suis pas le coach ou l'entraîneur de l'équipe première, mais un effectif. D'une équipe et de l'équipe première, il doit tourner autour de 20 à 25 joueurs. On peut utiliser 25 joueurs dans une saison, c'est possible.
Dans l'équipe première, ils sont en quelle division ?
Alors l'équipe première, elle est en DH aujourd'hui. DH, c'est-à-dire le plus haut niveau qui est le plus haut niveau régional. Donc après, dès qu'on passe de DH au-dessus, on arrive au premier niveau national. Un niveau dans lequel on était il y a maintenant 3 ans. On a dû 2 ou 3 ans où on est redescendu. Donc ça se reconstruit petit à petit. Donc on est au meilleur niveau régional. Et puis là, l'objectif, ça va être dans les quelques années à venir, je l'espère pour le club. Hein. C'est important même pour Évreux que l'équipe puisse remonter d'un niveau.
Y a-t-il des professionnels ?
Les seuls professionnels qu'il y a au club, c'est les gens qui y travaillent. Après on n'a pas de professionnels. Par contre, c'est un club qui forme des jeunes joueurs qui ensuite deviennent professionnels. On a plusieurs exemples comme ça, pas plus tard que le président qui était, bah, les présidents qui étaient là il y a maintenant 2 ans, Mathieu Bodmer et Bernard Mendy étaient des professionnels. Donc voilà, qui ont été formés à Évreux. Il y en a d'autres, comme le gardien de l'équipe de France masculine, Steve Mandanda, qui est originaire d'Évreux, le gardien de Marseille qui est aussi originaire d'Évreux, le deuxième, Brice Samba, il y en a plein d'autres comme ça. Voilà, c'est plus un club formateur qui forme des professionnels, mais on n'a pas de professionnels au club à part les gens qui y travaillent.
Combien d'entraînements y consacrez-vous par semaine ?
Alors moi, pour ma part, j'ai des U17. Donc on s'occupe des U17 à Évreux. Les U17, eux, ils vont à l'école et en même temps, ils jouent au foot. Donc ils doivent penser aux deux choses. Donc c'est un double projet, ils doivent réussir leur scolarité, mais en même temps, on essaie d'en faire des très bons joueurs. Et ces jeunes-là, c'est eux qui s'entraînent le plus dans le club. Ils s'entraînent 4 fois par semaine. Donc c'est quand même un rythme assez élevé. Ils s'entraînent le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, juste après l'école. Donc ils travaillent avant l'école et ils peuvent travailler encore ensuite. Et voilà, c'est les jeunes qui s'entraînent le plus au club. Après, l'équipe première s'entraîne 3 fois. Donc voilà, c'est pour dire voilà, qu'on est... Il n'y a pas que l'équipe première et puis les jeunes s'entraînent aussi beaucoup, puisque même les petits de 12 ans, même 10 ans, s'entraînent 3 fois par semaine, comme l'équipe première. Et puis jouent au week-end aussi.
Qu'est-ce qui vous a poussé vers le foot ?
Ah, qu'est-ce qui m'a poussé vers le foot ? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui m'a poussé ? Bah, j'ai joué dans la cour d'école quand j'étais petit. J'aimais ça. J'étais pas un trop mauvais joueur où est-ce que j'habitais, puisque j'habitais dans une commune rurale. Et puis après, bah, j'ai continué, j'ai joué, j'ai beaucoup aimé mes entraîneurs, j'ai appris beaucoup avec eux, et puis bah, j'ai ensuite été donc entraîneur, et donc j'ai travaillé au club, et puis voilà, je continue ma carrière d'entraîneur, d'éducateur et aussi de professionnel au sein du club.
Quel est votre meilleur souvenir ?
Mon meilleur souvenir, donc dans ma catégorie, puisque j'entraîne les U17, ça a été donc une victoire en Coupe de Normandie, c'est-à-dire la Coupe régionale. Et puis dans la même année, on a réussi à gagner le championnat et donc on est monté au plus haut niveau chez les jeunes en 17 ans nationaux. Et ça, ça a été un de mes plus beaux souvenirs. En tant qu'éducateur, après, voilà, j'ai d'autres petits souvenirs en tant que joueur, mais qui remontent quand même à quelques années.
Votre poste préféré quand vous jouiez ?
Moi, j'étais défenseur, et c'était mon poste préféré. Ouais. J'étais latéral droit ou latéral gauche, donc j'étais sur le côté de la défense. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis plus un entraîneur qui a l'habitude d'avoir des équipes qui défendent plutôt bien et... C'est la priorité pour moi.
Merci Grégory Badoche.
De nous avoir écoutés et de nous avoir répondu à notre interview. Donc merci d'avoir consacré.
À bientôt.
Et à bientôt.
Tous les jours j'entends à la radio, à la télévision, tel ou tel sujet poussé jusqu'à la dérision. Mais tout le monde sait que toujours nos chaînes de télé ont des partis plus politiques bien prononcés. Alors dites-moi, quel parti prendre ? Les médias nous conditionnent, ils sont là pour nous descendre. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et la presse à scandale ne vit que sur le profit. Vous écrivez sur nous, et bien j'écris sur vous. Putain de journaliste, à l'affût de gros coups. Exact, prends ça comme une menace. Quand tu que je m'efface car tu es d'un avec le pouvoir en place. Le flot médiatique publicite, j'en deviens paranoïaque. L'information abuse par sa position et ses actes. Le pouvoir des médias est dangereux pour des gens ignorant la puissance que dégage et te rend de documents. Un grand pourcentage de la population n'a que le journal de 20h comme vision du monde et de leur nation. Alors faut dire attention à ne pas faire votre éducation. Faut savoir pourquoi la manipulation de certains par l'État permet d'éduquer une nation. Mais quelle éducation ? Une éducation à travers la presse et la télévision, profitable aux dirigeants, sachant manier les pions, sachant manier la masse populaire, cachant la vérité que les gens vivent sur notre terre. Les Jeux Olympiques rapportent plus d'argent aux sponsors que les enfants qui meurent en Somalie, on est d'accord.
De la manipulation.
Mais je lutte face aux buts qui affûtent leur critique pour un scandale à la minute. Leur voix se répercute aux quatre coins du globe. Sera le premier épisode, la télé manipule notre pensée. Les images diffusées sont déjà visionnées. Au sein d'une cour où il n'y a aucun appel, quand tu allumes ta chaîne, ton esprit s'en appelle. Et la pub promotionne le quatrième pouvoir. La force des médias n'agit que pour sa gloire. Arrête de regarder ces merdes à la télévision et surtout ne fais pas ton éducation à travers les médias.
Les médias, les médias, les médias. Toujours le même refrain pour toujours le même résultat. Une prise de conscience par la vision. Une interprétation par le milieu de la surmédiatisation. Quel téléco radio pourra simplement ne pas parler le vent quand il s'adressera aux adultes et aux enfants. Quel jour restera le temps de s'adresser à sa nation avec la précision nécessaire pour dénoncer la corruption. La corruption est politique, la corruption est économique, la corruption est médiatique, mais les médias non niques. Les solutions se confient, les solutions sont illicites, les solutions vont à l'encontre de la politique. Donc éduque-toi par toi-même face au problème du système. Je prends du recul puis j'enchaîne les gueules. Les radios ne nous passent pas car nous sommes trop à corps.
Mais man, je ne dis pas pour les charts mais pour le Nord.
Les médias, je n'en ai rien à foutre. Tout comme les radios que jamais je n'écoute. C'est pour ça que l'académie assassin ne fera jamais son éducation. Attraper ces putains d'enculés, les médias.
Assassin avec le morceau L'éducation à travers les médias.
Le cas condamne une nouvelle fois les radios libres. Les autoriser, dit-il, ce serait l'anarchie des ondes.
Principe actif par principe actif ou actif par principe, c'est principe actif.
L'équipe, des bénévoles tout à la fois techniciens et journalistes, tous ont en commun de faire une radio libre.
Principe actif.
Tout de suite, nous retrouvons Clément et l'autre Morgane en compagnie de Florian Marseille pour vous parler de BMX.
Bonjour, nous sommes Morgane et Clément du Collège Henri Dunant à Netreville.
Bonjour.
Nous sommes avec Florian Marseille, président de Evreux Bike Park. C'est un club de BMX.
Bonjour, présentez-nous ce sport. C'est quoi le BMX ?
Alors nous, c'est plus du BMX dirt. Donc ça consiste à faire des figures en l'air, contrairement au BMX race qui va être plutôt faire de la course à partir à plusieurs. Donc nous c'est vraiment une discipline assez free, comme son nom l'indique c'est du freestyle. Donc voilà, on évolue sur des bosses en terre ou alors en skatepark. Et le but étant de faire des figures de plus en plus spectaculaires quoi.
C'est quoi la différence entre le BMX et le VTT ?
Entre le BMX et le VTT, ça va être principalement au niveau du vélo en lui-même. On va avoir des différentes tailles de roues. Donc ça va être plutôt du 24 ou du 26 pouces sur les VTT et du 20 pouces sur les BMX. On va aussi avoir une autre différence, c'est que les BMX, on va être sur un cadre complètement rigide. Donc aucune suspension et tout ça, contrairement au VTT qui lui... aura soit une suspension à l'avant ou une suspension à l'arrière quelquefois. Quoi. Mais sinon, tous les deux sont utilisables pour la même discipline.
Est-ce que c'est un sport dangereux ?
Oui, quand même. C'est quand même assez dangereux. Après, on passe par des phases d'apprentissage qui sont par le bac à mousse, par exemple, qui vont nous apprendre à faire des figures tout en ayant une certaine sécurité de façon à atterrir. Donc, dans un bac à mousse et de façon à vraiment moins se faire mal. Après, quand on évolue directement sur la terre pour essayer les nouvelles figures, c'est un petit peu plus dangereux, mais par exemple, contrairement au BMX Race, on n'a pas beaucoup plus de chutes que, bien que ce soit un peu plus spectaculaire.
Est-ce qu'il y a eu des blessés ?
Allô ?
Est-ce qu'il y a eu des blessés ?
Oui, des blessés, il y en a quelques-uns de temps en temps. Après, on n'a jamais vraiment de grosses blessures. Ça arrive de temps en temps, mais ça va être des petits bobos. Mais sinon, de temps en temps, il arrive quand même qu'il y ait certains blessés. Quoi.
Quelles sont les qualités morales et physiques de ce sport ?
Donc, comme je disais, les qualités morales, on arrive à, comme je disais, à vraiment faire participer les jeunes, que ce soit la conception du terrain ou même au niveau des projets. Donc du coup, il y a une grosse prise de conscience que le travail amène toute récompense. Après, au niveau physique, c'est quand même un sport assez physique. C'est sur des courtes durées, du fait qu'on ne pédale pas et on est vraiment en apnée tout le long de la ligne. Donc vraiment très physique et comme je disais, une préparation physique à côté est vraiment la bienvenue pour pouvoir pratiquer en pleine sécurité et puis avoir le physique, quoi.
Quelle est la plus grande gamelle, la plus grosse gamelle qui vous est arrivée?
Alors, la plus grosse gamelle, j'ai envie de dire que c'est sur un backflip. Un backflip qui a mal fini. Donc, backflip, c'est une rotation sur l'arrière. On se met complètement la tête à l'envers. Et donc, des fois, ça arrive de faire des erreurs. Et donc, grosse chute sur le dos. Et là, ça fait mal.
Aïe.
Et si nous parlions de matériel, faut-il des vélos adaptés, un équipement spécial?
Ouais, alors... Dans BMX, c'est un terme assez large. Ça veut dire bicycle motocross. Donc c'est vraiment des vélos, donc comme je disais, petits, avec des petits trous de 20 pouces, rigides. Après, il va y en avoir des différents. Il va y avoir les BMX Race qui vont être plutôt des cadres alus, qui vont permettre une certaine légèreté, beaucoup de maniabilité. Nous, on a besoin d'un peu plus de robustesse au niveau des vélos parce qu'ils vont prendre un peu plus de choc. Donc c'est des cadres principalement en acier avec des petits détails comme les couronnes qui sont beaucoup plus petites pour échapper tout ce qui pourrait être coping ou barre de rail dans les skateparks. Après, au niveau équipement, bah, le casque au bol, les genouillères, les coudières. Et après, pour ceux qui veulent un peu plus de sécurité, on peut mettre des dorsales qui vont vraiment protéger le dos. Mais après, il y a certaines personnes qui roulent sans protection, qui sont vraiment dans l'esprit free, qui veulent être vraiment tranquilles, tout en fluidité. Et après, on conseille quand même aux jeunes de s'équiper, parce que la sécurité, c'est important, on peut se blesser assez rapidement quand même.
Quel est le nombre de licenciés dans le club?
Alors dans le club, on n'a pas vraiment de licenciés parce qu'on était un club qui était affilié à l'UFOLEP, donc il y avait des licences à l'année. Au final, du fait qu'on peut accueillir que 6 mois à l'année les jeunes à cause de ce temps super que nous avons en Normandie, donc je vais dire qu'on est pour l'instant on est une vingtaine. Mais ça va évoluer d'ici les années prochaines, je l'espère.
Comment recrutez-vous les adhérents?
Alors là, aucun recrutement, j'ai envie de dire. On fait des démonstrations avec une remorque qui nous permettent de faire connaître un maximum notre association et la discipline. Ça donne beaucoup de vocations. Donc après, les jeunes viennent nous voir au terrain à Saint-Michel et puis... C'est des essais par un prêt de vélo, ensuite commence l'investissement et puis voilà, ils nous suivent et puis on est là pour les encadrer.
Si ça nous intéresse, comment fait-on pour s'inscrire?
Alors, pour s'inscrire, il faut... actuellement, on marche beaucoup via Facebook, nous n'avons pas de site internet. Nous avons des horaires d'ouverture qui sont donc l'été... principalement tout le week-end, l'après-midi. Mais sinon, la page Evro Bike Park sur Facebook est vraiment le moyen d'aller chercher de l'information et de prendre contact avec les dirigeants et permettre de connaître les heures d'ouverture.
C'était Clément et Morgane en direct de la Principe Actif de la radio Évreux avec Florian Marseille, président de Evro Bike Park. Merci pour nous avoir écoutés. À bientôt.
Et puis, merci à vous aussi. Ça permet encore une fois de pouvoir parler de la situation et de la discipline.
L'émission touche à sa fin. Vous pouvez la retrouver en podcast sur le site internet qui est principactif.net. Nous remercions nos invités, Jonathan Profissé, Grégory Badoche et Florian Marseille, d'être passés à mon micro. Merci de votre écoute. On se retrouve pour une prochaine émission d'ici. Là, portez-vous bien. Au revoir.
Les émissions des quartiers.
C'était impressionnant quand même.